Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et comme tous les jours, bienvenue dans votre émission Sortez sur Radio Campus, toujours en compagnie de Chloé, bonjour.
Salut.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Aude Ravet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous faites partie de l'association Aux 4 Vents.
C'est ça.
C'est bien ça. Mmh. Alors, on va en parler tout de suite après, on a eu envie de vous repasser une chronique de notre cher Julien qui n'est pas là aujourd'hui, mais...
Il est à Versailles. Coucou Julien à Versailles.
C'est parti.
Alors ce week-end, je traînais sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo du YouTuber Morgan VS. Alors il a un concept assez spécial sur sa chaîne, c'est-à-dire qu'il va avec son invité goûter un produit, il va comparer donc sa version la moins chère de ce produit avec une des versions les plus chères qui existent. Et donc dans sa vidéo de ce week-end, il était accompagné d'un autre YouTuber qui s'appelle Le Bouzeux et ensemble, ils ont goûté des croque-monsieur. Alors un croque-monsieur à 90 centimes et un croque-monsieur à 150 euros. Alors pour l'instant... Vous me perdez un peu, vous savez pas trop où je vais aller. Mais alors en fait, je vais vous parler de l'endroit où ils sont allés. Alors ce croque-monsieur à 150 euros, je t'ai vu faire des grands yeux. C'est parce que dedans, il y a du caviar, il y a beaucoup de choses pour, voilà, pour faire monter le prix. Mais donc, ils sont allés dans une brasserie qui s'appelle la Brasserie Bélanger, qui est donc dans le 10e arrondissement de Paris. Et donc, cette brasserie, elle a quelque chose d'un peu spécial. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Alors, je vais vous aider un peu, ça concerne les produits. En quoi ces produits peuvent-ils être un peu spéciaux?
Ils vont chercher les produits à, je sais pas, 2-3 km à côté, dans la ferme d'à côté ou je sais pas quoi.
Bah écoute, ça ressemble à ça, mais pas vraiment. Okay. Alors je vais t'expliquer. Alors les deux patrons, ils s'appellent Victor et Charlie. Et donc ils ont fait un truc génial il y a 3 ans avant d'ouvrir leur brasserie. Ils sont partis faire un tour de France pendant un an. Et durant ce tour de France, ils sont allés dénicher en fait des produits d'exception pour ensuite les proposer dans leur brasserie. Alors ça c'est super avantageux, pourquoi? Alors parce que déjà ils connaissent l'origine exacte de leurs produits. Ils savent exactement d'où ils viennent, ils connaissent l'histoire des producteurs. En plus, ils peuvent s'assurer de la qualité de la production, du respect de l'environnement et de toutes ces choses-là. Il y a encore un autre avantage, un avantage économique, parce que le fait de passer comme ça sur un circuit court, c'est comme ça que ça s'appelle, eh bien l'éleveur va être mieux rémunéré que si on passait par des grossistes. Et en plus, le restaurant va payer moins cher cet éleveur que s'il payait par exemple un grossiste justement, parce qu'il n'y a pas cet intermédiaire qui va venir prendre un coût, et donc le fait que le coût soit moins cher, ça va permettre de proposer des produits de meilleure qualité au même prix, donc c'est en fait avantageux pour tous les parties. Donc vous l'avez compris grâce à mon exemple, aujourd'hui on va donc parler de ces circuits courts, car quand on regarde le principe en fait de cette notion, et bah ça semble quand même être une idée assez bonne. Ça permet donc, comme je disais, aux producteurs de vendre leurs produits à un prix qui leur permet de subvenir à leurs besoins et puis d'être payés correctement pour leur métier. Et ça permet aussi aux acheteurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises, eh bien, de payer moins cher que s'ils passaient par différents industriels ou différentes personnes. Voilà. Ça leur permet donc, comme je disais, d'éviter de passer par ces industriels, car le problème de ces industriels pour les producteurs et les agriculteurs, c'est que malheureusement, ils vont acheter les produits souvent à un prix trop bas, ce qui va faire que même des fois, les agriculteurs vont être obligés de vendre leurs produits à des prix qui ne remboursent même pas les coûts de production. Ils vont vendre à perte. Et ça, c'est une situation qui est assez critique, parce qu'en France, on est quand même un modèle mondial d'agriculture. Et se dire qu'on a des agriculteurs qui, malheureusement, on le sait, tous les jours, toutes les semaines, il y a un nombre assez important d'agriculteurs qui, malheureusement, se donnent la mort. C'est assez compliqué, cette situation. Et donc, bah, je pense que ce genre d'intermédiaires et ce genre de solutions peuvent être favorables aux agriculteurs pour sortir la tête de l'eau et être dans une meilleure situation financière, tout simplement. Alors, le ministère de l'Agriculture, français, forcément, a sorti des chiffres en 2010 sur les agriculteurs et sur les circuits courts. Et donc, en 2010, il y avait déjà 21% des agriculteurs qui passaient par des circuits courts. Alors, est-ce que vous avez une idée du type de production qui se vend le plus en circuit court?
Les légumes, les fruits.
Les légumes, alors c'est 46% des légumes qui sont vendus en circuit court. J'en ai 3 autres là, est-ce que tu as une idée, d'autres idées?
La viande.
La viande, c'était 9% de viande qui est vendue en circuit court, donc c'est pas beaucoup. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est le miel qui est vendu à 50% en circuit court. Il y a aussi les fruits qui sont vendus à 25%, et puis le vin à 25% également. Par exemple, pour l'exemple du vin, on sait qu'il y a des vignerons qui font visiter leur domaine et donc qui profitent justement de cette visite pour vendre leurs produits. Je trouve que c'est intéressant. En plus, cette visite, ça permet aux gens de se rendre compte de comment est produit réellement le produit. Et puis aussi pour les enfants, parce que c'est un truc qu'on peut oublier, mais je pense qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ne savent pas forcément comment tout est produit. Donc ça peut être intéressant d'aller à la ferme, de se rendre compte comment ça fonctionne et de voir tout ça en vrai. Il existe également des coopératives. Alors peut-être que vous connaissez la laiterie Verneuil. Vous avez peut-être vu au supermarché, ils vendent du beurre, ils vendent du lait. Donc les coopératives, je trouve que c'est un modèle assez intéressant parce que, encore une fois, il y a tous ces avantages qui permettent aux agriculteurs d'être bien rémunérés. Et en plus, en fait, ils se rassemblent. Donc déjà, ils ne sont pas seuls en plus. Et ça leur permet donc de vendre tout ça, de vendre tous ces produits à un prix correct. Et voilà, très bonne initiative. J'ai également trouvé à Tours un magasin qui fonctionnait en circuit court, qui s'appelle La Charrette, qui est située à Chambray-les-Tours. Alors peut-être que nos auditeurs connaissent ce magasin.
C'est trop bien.
J'y suis jamais allé, j'ai trouvé ce concept sur internet et je trouve ça vraiment génial. Donc apparemment, il y a plus de 60 agriculteurs qui proposent leurs produits à la vente. Et en plus, le magasin est tenu uniquement par ces agriculteurs. Donc, encore une fois, un vrai système de collaboration entre eux, d'entraide. En plus, on sait que quand on va y aller, les gens à qui on va parler, ça va être des vrais producteurs, des gens qui connaissent les produits, des gens à qui on va pouvoir échanger et comprendre les produits, comment on peut les cuisiner, par exemple. Donc, je trouve que c'est vraiment une plus-value pour le coup. Et ils proposent aussi parfois des paniers avec des fruits et légumes pour découvrir donc tous les bons produits de nos régions. Alors, il y a d'autres avantages auxquels on ne pense pas forcément. Notamment des avantages écologiques, forcément, parce que si jamais on va acheter nos tomates, par exemple, alors c'est plus trop la saison, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, si on achète nos tomates, par exemple, qui viennent d'à côté de chez nous, je sais pas, de Joué-les-Tours, de Tours, tout simplement, ben, le produit va pas beaucoup voyager, son empreinte carbone va être très basse, alors que si on achète des tomates qui viennent, par exemple, d'Espagne, la tomate va beaucoup voyager, on sait qu'en plus la production n'est pas dans des conditions idéales pour la planète, et en plus il va y avoir tout ce voyage, donc l'empreinte écologique va être assez forte. Et je me suis rendu compte en faisant toutes mes recherches sur cette chronique que c'était pas forcément plus cher de consommer local, justement grâce au fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'intermédiaires. Alors forcément, ça représentera peut-être quelques centimes en plus que certains produits qui viennent de très loin, comme par exemple cet exemple de l'Espagne pour les tomates. Mais ça peut être avantageux, pourquoi ? Pour cette réduction de pollution, et également d'un point de vue goût, ça n'a rien à voir, on est sur des produits qui sont vraiment de très bonne qualité, donc je trouve que c'est intéressant de se tourner vers ce genre de produits, made in France, c'est encore plus local, et locaux même, c'est mieux, voilà. Dernière chose auquel j'ai pensé après, c'est vrai qu'on parle de tous ces magasins qui permettent de faire le circuit court. N'oubliez pas les marchés aussi, parce que j'ai même pas pensé en faisant ma chronique, mais sur les marchés, donc il y a des gens qui viennent également proposer leurs produits. Alors, comme je disais tout à l'heure, certaines personnes vendent leur circuit court uniquement sur le lieu de production, comme par exemple à la ferme ou alors dans leur cave pour les vignerons. Et bien également sur les marchés, c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer les agriculteurs, les gens qui travaillent au quotidien ces produits et qui viennent nous les vendre, encore une fois, à un prix pas forcément exorbitant. Donc ça peut être des choses intéressantes à aller voir, à aller se renseigner pour consommer mieux, local, et puis consommer des bons produits, tout simplement. Donc voilà, ces petites initiatives que j'ai trouvées par rapport aux agriculteurs. Faut en prendre soin de nos agriculteurs. Ils travaillent bien et voilà, faut pas les perdre. On est content de les avoir.
Yes, merci beaucoup Julien.
Merci à toi.
Et juste pour rebondir à ce que tu disais, je viens de regarder, et pour ceux qui chercheraient La Charrette, c'est 104 avenue de la République à Chambray.
Voilà.
Et bah.
Comme ça, histoire classe. De.
Ça, c'est pro.
Bon, du coup, on va partir sur une pause musicale, vu que tous les regards se tournent vers moi, et on va partir sur Justice avec Alakazam. We'll be right back.
De retour dans votre émission Sortez sur Radio Campus en compagnie de Marie-Aude Ravé aujourd'hui de l'association Aux 80. Alors, plus un instant sans savoir, qu'est-ce que l'association Aux 80 ?
Alors, c'est une association qui a pour vocation de faire connaître les cultures traditionnelles, notamment à travers de la danse, mais pas que. On organise aussi des ateliers, des dégustations culinaires, parce que la culture, c'est pas quelque chose de compartimenté. C'est pas d'un côté littérature, d'un côté la musique, etc. En fait, dans la vie traditionnelle, tout est ensemble. Donc, on essaye de garder un petit peu ce côté ensemble, cohérent.
Oui, donc le fait de faire la danse est en fait presque un premier pas vers tout ce qu'est la culture.
Exactement. En fait, chacun accède à la culture par une porte d'entrée, forcément, qu'on s'intéresse plus à la littérature. Nous, notre porte d'entrée, c'est la danse. Pourquoi la danse ? Bah, parce que c'est un art qui peut se passer de la linguistique, déjà. Et puis, c'est aussi un des arts populaires, traditionnels. Quand je dis populaire, c'est vraiment au sens noble du terme, c'est-à-dire du peuple, qui est toujours un peu négligé. Vous ouvrez la page Wikipédia d'un pays, vous allez trouver sa politique, sa géographie, sa littérature, ses peintres, son architecture, et puis jamais ou presque rien sur la danse. Pourtant, Dieu sait que les peuples dansent, au quotidien même pour certains.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur ces danses traditionnelles ? Il y en a tellement qu'on ne peut pas toutes les faire.
Ah non, on ne peut pas toutes les faire. Et puis, il faut vraiment s'imaginer que ce n'est pas une danse traditionnelle par pays, c'est une danse traditionnelle par village.
Ah oui.
Parce que la danse, comme tout art, ou même comme la cuisine ou autre chose, c'est d'abord un identificateur social. C'est-à-dire, nous, on danse comme ça, les autres dansent comme ça. Vous êtes dans le village A, mais dans le village B, ils ne font pas du tout pareil. Hein. Attention, hein, ce n'est pas les mêmes que nous. Hein. Donc c'est d'abord, comme beaucoup de marqueurs culturels, un identificateur social. Et ce que je trouve particulièrement fascinant dans les danses traditionnelles versus les danses dites classiques, même si le terme s'adapte parfois mal à certains pays, mais on va dire danse traditionnelle versus danse classique, c'est que les danses traditionnelles sont très humaines. C'est pas quelqu'un qui s'est un jour posé en se disant on va faire comme ça parce que c'est vachement joli et puis je vais dire tel pas, faut qu'il soit fait exactement comme ça pour être dans le moule en fait, comme on apprend ici la danse classique, le ballet classique par exemple. Il y a tant de positions, il faut mettre les bras exactement comme ça, tel angle. Les danses, il faut très longtemps pour les apprendre, il faut commencer jeune, ça demande beaucoup d'assiduité, de passion et de persévérance. Mais les danses traditionnelles, c'est celles des gens normaux, des gens qui ne sont pas danseurs, qui ne font pas de spectacle, mais qui, dans des moments de leur vie, ont besoin d'exprimer qui ils sont, ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent et ce qu'ils sentent par la danse. Et donc, quand on voit une danse traditionnelle, on voit un peuple qui s'exprime. Mais on ne le voit pas à un instant T d'un chorégraphe qui s'est dit « je vais faire un truc pour exprimer une violence sociale, une idée, une esthétique particulière ». Ce qu'on voit, c'est des siècles on voit tous les ancêtres et on voit aussi en fait les générations futures, parce que c'est quelque chose, ce qu'on est, on désire le transmettre à ses enfants évidemment. Et donc voilà, c'est ça pour moi qui fait que la danse traditionnelle est si humaine et si intéressante, quel que soit le moment où on l'apprend. Il y a une culture, mais il y a une histoire et il y a ce désir de transmettre dedans.
Et vous, Marie-Aude, alors, comment est-ce que vous en êtes venue à cette passion, un peu dans votre parcours de vie, tout ça?
Moi, je crois que c'était la danse, c'était une vocation. Donc, j'ai pas fait d'études de danse, j'ai fait des études de linguistique. Mais dans ces études de linguistique, il y avait déjà en germe cette envie d'aller connaître l'autre sur son propre terrain, entre guillemets, d'apprendre les langues étrangères et d'essayer de les comprendre de l'intérieur pour comprendre qui sont ces gens, de pas exiger des autres qu'ils soient comme moi, mais moi essayer d'être comme eux. Et puis j'ai rencontré, alors, j'ai toujours plus ou moins aimé danser, hein, même si j'ai pas pratiqué ou j'ai pas fait d'études, mais j'aimais ça. Et puis j'ai commencé d'abord en étant élève de danse orientale. Et puis j'ai ensuite enseigné la danse orientale, qui est une parmi d'autres danses traditionnelles. Et j'avais en fait dans la danse orientale et dans les danses traditionnelles que je pouvais goûter au travers de stages, d'ateliers, comme ça les week-ends, j'avais la même frustration que dans la linguistique, c'est-à-dire que on parlait toujours de ces peuples étrangers, j'apprenais leur langue, j'apprenais leur danse, mais je les voyais jamais. Et donc j'ai décidé de voyager pour les rencontrer pour de vrai, ne pas les connaître qu'au travers de livres, que ne pas les connaître qu'au travers de documentaires, mais et explorer le monde sur mon propre corps. Et donc j'ai commencé à apprendre les danses traditionnelles dans leur pays avec les gens qui les pratiquent de cette manière.
Et vous êtes allé dans combien de pays comme
33.
Ça ? What ?
Mais ça fait beaucoup, mais en même temps ça fait très peu quand on se dit qu'actuellement on compte 194 pays, je crois, sur la planète. Donc il me reste encore du chemin à parcourir, mais de toute façon c'est le but de mon voyage n'a jamais été de faire le plus de pays possible sur ces 33 pays. Il y a certains où je suis allée jusqu'à 7 fois. Le but de mon voyage c'était pas de faire le plus de pays possible, de faire une checklist en disant ça y est, c'est fait, j'ai fait des pays. Non, je fais pas des pays, déjà j'y suis invitée, j'ai la chance de pouvoir être reçue dans un pays et je mesure cette chance qu'un pays veuille m'accueillir pendant une durée indéterminée pour partager quelque chose avec moi. C'est un immense privilège que je me dois de respecter, donc je ne cherche pas à aller à tout prix dans tous les pays et d'en faire, comme on dit, le plus possible. C'est tellement méprisant de dire qu'on fait un pays. Non mais...
Et alors du coup, où est-ce que vous êtes allé, où ça vous a un peu le plus touché, la culture qui vous a vraiment le plus touché?
Alors moi, ce qui m'a touché, on me pose souvent la question, mais j'ai pas de pays préféré. Ce qui m'a touché dans mon voyage, c'est de voir à quel point chaque pays, et même chaque endroit d'un pays, quand j'ai eu la chance de pouvoir voir plusieurs endroits d'un même pays, combien c'est différent. Oui. Combien c'est varié, combien c'est riche, mais hélas aussi, combien ça disparaît. Ça m'a touchée, la première partie m'a touchée dans le positif et la deuxième évidemment dans le négatif, parce que quand on voit cette richesse culturelle, cet héritage que chaque village, chaque individu appartenant à une communauté porte, et qu'on se dit que tout ça disparaît au profit des mêmes vêtements, des mêmes téléphones portables, c'est triste. Et pourtant beaucoup de pays arrivent à joindre les deux, bien que évidemment la modernité à l'occidental tente toujours de l'emporter, forcément par notre faute, hein, mais c'est tellement plus simple de s'y plier, c'est tellement plus facile d'être cool et d'être à la mode, de faire comme tout le monde. On veut tous être comme les autres, hein. mais du coup, on tend à tous vouloir se ressembler, c'est plus rassurant pour beaucoup. Et j'espère que la diversité que j'ai pu observer dans le monde restera longtemps en vie, et je me place définitivement du côté de ceux qui protègent cette diversité.
Et je me demandais, quand du coup vous allez dans un pays, comment ça se passe? Vous partez avec votre sac à dos, puis vous essayez de rencontrer des gens sur place, vous vous faites héberger, vous...
Non, pas du tout. Déjà, comme j'ai dit, je ne vais dans un pays que si j'y suis invitée. C'est-à-dire que je ne vais pas dans un pays en me disant, ah bah, advienne que pourra, je vais aller taper à des portes et il y a bien quelqu'un qui m'ouvrira et sinon j'irai dans une auberge de jeunesse. C'est pas comme ça que j'ai conçu mes voyages. C'est parfois, chaque destination a eu son histoire propre, on va dire, comment je me suis retrouvée là-bas, il n'y a pas de règles. Mais d'une manière générale, il arrive un moment où quelqu'un que je connais depuis pas longtemps ou depuis très longtemps me dit tiens, mais pourquoi t'irais pas aussi dans mon pays pour voir, pour apprendre la danse? Mais j'ai ma tante qui habite dans la capitale, tu pourrais habiter chez elle, elle est très gentille. Et on va dire, c'est souvent comme ça, mais chaque pays a son histoire propre, on va dire.
D'accord. Pour, donc du coup, pour revenir un peu à l'association, toute cette richesse, et enfin tout ce que vous avez découvert là-bas, vous essayez en fait à tour de nous faire un peu les photos, nous montrer les photos. Quoi.
C'est plus qu'une photo. Déjà, c'est une promesse que j'ai faite au peuple que j'ai croisé, mais pas une promesse romanesque. Hein. C'était pour beaucoup une vraie promesse. Ils m'ont dit le jour où je suis partie, écoute, maintenant tu as appris notre danse, tu es un petit peu comme nous, tu sais parler un petit peu notre langue. Quand tu retourneras chez toi, tu parleras de nous. Tu continueras à pratiquer notre danse, tu n'oublieras pas la langue hein, qu'on t'a appris, tu n'oublieras pas les mots, tu diras qui on est et tu diras ce qu'on est. Et cette association est une des manières que j'ai de tenir la promesse que j'ai faite à ces peuples.
Ça fait combien de temps qu'elle existe ?
Depuis, alors elle a été fondée en 2014, mais vraiment active en 2015, toujours. D'accord. Le temps de...
Donc active pour cette association veut dire des cours de danse.
Voilà, des cours de danse, des spectacles, des projets pédagogiques avec les milieux scolaires et périscolaires, que ce soit dans le secondaire, dans le primaire, mais même aussi avec les tout petits. J'interviens 3 fois par mois dans des crèches et des MAM, maisons d'assistantes maternelles. Donc pour chaque âge, il y a un projet spécifique. Et puis donc depuis quelques temps, on a aussi démarré un peu une activité d'atelier cuisine et dégustation pour ceux qui n'ont pas envie de cuisiner mais qui aiment bien manger. C'est légitime. Et oui.
Alors justement, cette cuisine, c'est quoi votre plat préféré en quelque sorte? Qu'est-ce qui vous a...
Alors qu'est-ce que j'ai bien aimé? C'est vrai. J'adore manger et j'adore cuisiner, donc là la question est vraiment difficile. Et je cuisine énormément chez moi et j'aime bien justement aussi cuisiner plein de trucs que j'ai pu manger et connaître ailleurs. Bon, après c'est parfois la chasse aux épices et la chasse aux produits pour certaines cuisines. Mais j'ai adoré la fraîcheur du thon cru dans le lait de coco en Polynésie, mais j'ai aussi aimé la douceur et la chaleur rassurante du thé au beurre dans l'Himalaya. C'est très différent, mais en fait, je trouve que chaque plat me rappelle un souvenir, et chaque plat convenait exactement à l'endroit où il était dégusté. Et donc, ouais, c'est bien de pouvoir varier. J'ai des souvenirs corrects, avec presque chaque pays en termes de gastronomie. Après, on va pas se mentir, il y a des pays où on mange mieux que d'autres. Hein. Mais c'est-à-dire que aussi tous les pays ne partent pas avec les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Oui, il y a des pays où la nourriture tombe du ciel et des pays où il faut largement se battre pour avoir le moindre truc à se mettre sous la dent.
Et je me demandais aussi, du coup, vous avez des costumes quand vous dansez?
Oui.
Vous
oui.
respectez
oui.
le code
vestimentaire?
Ah oui,
bien sûr. Oui, oui, évidemment. Et tous les costumes que j'ai, je les ai ramenés.
Ah, trop bien.
Oui, oui, oui. S'il y avait une chose que je devais ramener, j'ai quasiment rien ramené de mes voyages, parce qu'il faut se dire que mon voyage s'est fait en 2 temps. En fait, j'ai commencé à voyager en 2010 et jusqu'en 2014, je l'ai fait sans interruption. Okay. C'est-à-dire qu'en 2010, j'ai vendu tout ce que je possédais et tout ce qui restait de ma vie devait tenir dans une valise. Et de 2010 à 2014, j'ai voyagé comme ça de pays en pays et de famille en famille. En 2014, je me suis installée à Tours. Et depuis, je suis à nouveau sédentaire et moins nomade. Mais il m'arrive de repartir de temps en temps pour des périodes indéterminées à l'étranger. Mais par contre, je reviens après à Tours. Donc, en tout cas, pendant toute la période où j'ai voyagé de manière directe et sans retour, évidemment, et il n'était pas trop question de ramener des objets parce que j'avais nulle part où les ramener dans un premier temps. Et puis, dans les aéroports, on est un petit peu limité en poids. Donc, ça ne sert à rien de stocker des pots de confiture de fleurs et des, et des sachets de thé qu'au final, on n'utilise pas parce qu'on n'a pas de chez soi. Donc, s'il y avait une chose que je voulais vraiment ramener quand c'était possible, ça ne l'a pas toujours été d'ailleurs, c'était un costume de danse, parce que ça faisait partie en fait de la finalité pour pouvoir après garder cette danse dans mon répertoire et pouvoir la montrer.
Et du coup, dans vos cours, quelles danses sont principalement pratiquées?
Principalement, j'enseigne la danse tahitienne. Je pense que si je l'enseigne principalement, c'est aussi parce que de toutes celles que je pratique et que je suis, que j'ai envie et je peux enseigner ici, c'est la plus connue. Je pense que danse tahitienne, bon, quel que soit le cliché qu'on peut avoir, on s'imagine quelque chose quand on dit danse tahitienne. Par contre, si je vous dis que là, par exemple, à partir de dimanche, je commande des ateliers mensuels de danse géorgienne, je ne sais pas si tout le monde a une idée de ce à quoi ressemble la danse géorgienne. Tout le monde secoue la tête. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'enseigne principalement la danse tahitienne, ce qui est pas sous danse indienne, bien que danse indienne, ça ne veuille rien dire. Hein, le pays fait la taille d'un continent. Mais bon, danse indienne, bon, globalement, hein, on imagine des trucs. Après, bah, c'est à moi dans les cours de confirmer ou d'infirmer les clichés de ces danses. Et puis bah, de susciter via ces danses peut-être l'envie d'en apprendre des plus rares, comme la danse mongole, ou la danse géorgienne, danse chinoise, etc.
Il y a toujours une espèce de ligne qui reste un petit peu la même dans la, un peu la, pas la genèse, mais dans la structure osseuse, en quelque sorte, des danses.
Oui, il y a des points communs. Ce point commun, bah, c'est en fait quelque chose qu'on évoquait tout au début de notre conversation, c'est que ce sont les danses des gens normaux et ces danses s'inspirent de leur vie quotidienne. Ce qu'ils vivent au quotidien, que ce soit dans leurs gestes ou que ce soit dans leur environnement, ils le retranscrivent dans la danse. On va avoir des danses dont les gestes sont basés sur des métiers ou sur des gestes qui sont répétés toute la journée de manière utilitaire. Et bah, c'est le principe de l'art, en fait, de sublimer ça. On va faire les mêmes gestes, mais en plus beau. Parce que bah, quand on fait tous les jours les mêmes gestes, laver des trucs dans la rivière ou traire des vaches, c'est pas drôle, hein, ça n'amuse personne. Même pas les gens qui le font pour vivre, ça les amuse pas, mais quand on le danse, bah ça devient plus beau, ça devient nous, ça devient plus intéressant. Parfois ça peut être des animaux qu'ils côtoient aussi, qui peuvent leur faire peur ou qui leur sont précieux. En Mongolie, c'est aussi la danse, il y a beaucoup de mouvements qui sont basés sur les mouvements du cheval, qui est l'animal évidemment des nomades mongols. Mais la danse indienne que je pratique au Rajasthan, c'est la danse du cobra. Le cobra, c'est un animal certes sacré, mais aussi extrêmement dangereux. C'est un animal qui vient se glisser dans les berceaux des enfants pour les manger quand on ne fait pas attention, pour les mordre. Donc danser le cobra, bah, c'est danser aussi la partie sacrée de l'animal, mais c'est aussi transformer cette peur qu'on peut avoir de l'animal en quelque chose de plus beau. Mais tout ça, ce n'est que le principe de l'art d'une manière générale.
Oui, voilà, de donner en histoire en fait ce qu'on vit
c'est
tous
ça,
les jours.
Exactement.
Et je me demandais du coup le côté spirituel. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des danses où, par exemple, vous n'avez pas le droit parce que vous appartenez pas
Oui, bien sûr. Oui, ça existe. Généralement, toutes les danses religieuses, c'est-à-dire qu'on peut les regarder, mais c'est la même chose chez nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait de n'importe quoi, de Mongolie ou d'ailleurs, qui verrait un prêtre chrétien catholique en train d'officier, bah, on pourrait, même s'il va à la messe 2-3 fois et qu'on lui explique un peu de quoi il retourne, il peut pas se mettre en tenue et faire la messe lui-même. Voilà, c'est, il y a des moments, il y a des barrières et c'est normal. C'est normal.
Mmh. Très bien. Eh bien, voici venu le temps de faire une pause musicale et du coup, vous pouvez peut-être introduire un petit peu cette chanson.
Oui, parce que dans 2 semaines, enfin même pas dans 2 semaines, dans 10 jours, je proposer un événement autour de l'Himalaya et donc j'ai choisi de vous montrer à vos oreilles une musique tibétaine toute douce. Je pense que peut-être pas beaucoup en ont entendu, donc c'est l'occasion de faire connaissance avec un petit peu de cette musique.
Tout à fait. bien, merci beaucoup Marie-Aude pour cette découverte. On peut peut-être rappeler le titre de la chanson.
Oh bah alors, franchement le titre je le connais pas, parce que le problème des morceaux sur YouTube c'est que le titre souvent est marqué en alphabet tibétain, et là je ne le lis pas. Mais en tout cas, c'est pas difficile de trouver de la musique tibétaine ou himalayenne d'une manière générale sur YouTube. Il suffit de taper musique tibétaine ou Tibetan music. Par contre, vous allez en trouver de deux sortes, surtout en ce qui concerne la musique tibétaine. Il y a la musique tibétaine chantée en tibétain et la musique tibétaine chantée en chinois. Évidemment, parce que le lieu est connu pour être un petit peu problématique sur le plan politique et social en ce moment, surtout politique. Et ça ne veut pas dire que les chansons chantées en chinois ne sont pas belles. Elles sont souvent chantées par les Tibétains, hein, juste en langue chinoise. Mais voilà, il y en a de deux sortes. Donc tendez l'oreille si vous parlez chinois ou si vous parlez tibétain, ou si vous parlez ni l'un ni l'autre, essayez de faire la différence entre les deux. Et puis je voulais aussi dire, on en a parlé hors antenne pendant qu'on diffusait la chanson, mais on voit que cette chanson est légèrement occidentalisée, comme quoi l'un n'exclut pas l'autre. On peut avoir de la modernité occidentale si on décide que la modernité c'est ce qui est occidental. Souvent c'est le cas, en bien ou en mal, peu importe, hein, c'est pas pour être jugement, mais en tout cas les deux peuvent se mélanger sans que l'un ne dénature l'autre.
Oui, complètement. Alors oui, rappelons-le, dimanche 8 mars à midi, à Tour de Table 45 rue Bernard Palissy.
Oui, Tour à Table.
Tour à Table, j'ai dit quoi ?
Tour de Table, Tour à Table.
Tour à Table, cher auditeur.
Tour de Table, c'est une émission sur Radio Campus, je crois.
Eh ben voilà, oui, ben c'est la publicité cachée, publicité subliminale.
Bon, en tout cas, brunch et spectacle au sujet de l'Himalaya.
C'est ça, mais c'est un nouveau projet qu'on essaye de lancer avec l'association. Donc toujours dans cette optique de ne pas scinder d'un côté la cuisine, de l'autre les danses, quelque chose. Enfin, que tout soit compartimenté comme ça l'est si souvent. Sinon, on est bien compartimenté. Hein. Donc le but, c'est les bénévoles de l'association et moi, on va préparer un repas himalayen traditionnel, enfin un plat salé, un plat sucré et une boisson traditionnelle. On ne peut pas non plus faire 46 plats, c'est pas le but. Le but, c'est de faire goûter, de faire découvrir des saveurs de là-bas. Et puis, entre le salé et le sucré, on fera une petite démonstration de danse, mes élèves et moi, pour montrer un peu à quoi ça peut ressembler, ce qu'on danse là-haut, parce que j'entends vraiment encore des gens qui me disent « Ah bon, il y a des danses dans l'Himalaya ?» Bah oui, il y a des danses partout. Comme si la danse devait se limiter à des robes sexy, courtes et des talons hauts, bah non. Les danses partout, bien sûr.
Et il y aura combien de monde sur scène, de danseurs, pardon ?
Oh, on n'est pas très peu nombreux, c'est pas une scène d'ailleurs, hein, c'est vraiment juste une petite démonstration entre deux dégustations, mais on sera à trois à danser. Voilà.
Très bien. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus concernant les plats ?
Oui. Alors, le menu. Donc, en boisson, il y aura le gurgur chai, qui est le fameux thé au beurre de l'Himalaya. Donc, c'est un thé noir qu'on boit, je vais pas dire de manière quotidienne, parce que c'est pas une fois par jour, c'est toute la journée. Et je me souviens même, quand j'étais dans l'Himalaya, le matin, on me donnait ma petite tasse de thé au lait, et elle était tellement chaude que je pouvais pas encore la boire, de thé au beurre, pardon. Enfin, il y a du lait et du beurre. Hein, c'est... Et de toute façon, quand il fait moins 30 dans l'Himalaya, on s'en sort pas avec une tasse de verveine. Hein. Ouais, d'accord. Donc, il faut du gras. Donc, la maman me servait une petite tasse de thé au beurre. Elle était si chaude que je pouvais pas encore la boire. Donc, j'ai trempé les lèvres, puis je l'ai laissée poser devant moi. Je me souviens qu'elle me regardait la tasse, puis elle m'en versait une deuxième. De dire, bon, il faut quand même qu'elle boive cet enfant.
Ah, parce qu'eux, ils le boivent, mais...
Ah ouais, ils le boivent très très chaud, moi j'arrivais pas, je me brûlais la langue, mais en tout cas toute la journée on boit ce thé au beurre, donc c'est un thé noir avec du lait et du beurre, ça donne du gras, ça donne du réconfort aussi quand il fait très froid. Bon, on mettra pas trop de beurre parce qu'on est déjà en mars, hein, donc les températures sont pas les températures de l'Himalaya ici, mais quand même ça c'est vraiment le goût de l'Himalaya. Pour le plat salé, je vais vous préparer avec les bénévoles du SKU. Alors, si vous aimez les cuisines rares, vraiment la cuisine du Ladakh, c'est la cuisine inconnue de l'Inde. Parce que l'Inde, c'est pas que les curries et les choses comme ça. Hein. L'Inde, c'est grand. Et le Ladakh, c'est l'extrême nord de l'Inde, la partie himalayenne qu'on appelle le petit Tibet aussi. Et donc, un des plats qu'on mange là-bas, skew, c'est une soupe qui peut être à base de légumes ou à base de viande. L'hiver, elle est essentiellement à base de viande. Et puis l'été, enfin l'été, voilà, vous m'avez compris, quand il neige pas et que les routes sont ouvertes et qu'on peut soit faire pousser des légumes, soit qu'on peut en importer d'autres parties de l'Inde, ben on fait une soupe avec des légumes. Donc, quand il y a des légumes, c'est fête. Donc, comme ce sera fête, le jour du brunch, ce sera un skew avec des légumes et des épices. Et puis, puisque avant-hier, le 25, c'était l'Ossar, le nouvel an bouddhiste, on va le fêter un petit peu en retard. Et en plat sucré, on va préparer des kapsé. Donc ça, c'est les beignets traditionnels de l'Himalaya tibétain, l'adaki. Donc la recette est très simple, hein, c'est de l'eau, de la farine, du sucre. On fait frire ça, et ça aussi, c'est très réconfortant.
Alors, dans cette région de l'Himalaya, parce que l'Himalaya c'est,
ah bah c'est grand,
extrêmement
oui.
grand,
ah oui.
2400 km de long,
certainement vous connaissez les chiffres mieux que moi,
je sais pas, mais en tout cas vous êtes allé voyager dans un peu cette portion entre
au Ladakh. Alors c'est vrai que c'est une partie un peu moins connue de l'Himalaya. Quand on dit Himalaya, on pense d'une part au Tibet, mais le Tibet en ce moment c'est compliqué, voire pas possible d'y aller pour les Occidentaux, pour les raisons politiques qu'on connaît. La plupart des gens qui vont dans l'Himalaya vont au Népal. C'est un peu la partie touristique de l'Himalaya, la partie accessible, non pas parce que les sommets sont plus bas ou moins difficiles, mais parce que ça fait tant d'années que c'est fréquenté par les touristes. Hélas, ou pour le meilleur et pour le pire, c'est devenu plus accessible. Et puis le Ladakh, c'est pas très connu. D'ailleurs, quand je dis que je suis allée au Ladakh, les gens tiltent pas. Ils savent pas trop ce que c'est. Mais donc le Ladakh, c'est l'extrême, extrême, extrême nord de l'Inde. Donc ça fait toujours partie de la République indienne. Mais c'est collé en fait à la Chine et au Pakistan, c'est collé au Tibet au final. Donc c'est pas très connu et c'est haut. Le Ladakh c'est minimum 3500 mètres d'altitude. Et puis après c'est plus. Hein. Mais la ville principale, la capitale si on peut dire ça comme ça, c'est Leh, c'est écrit L-E-H. Et Leh c'est 3500 mètres d'altitude, voilà.
Et puis on peut se dire, alors j'ai pas le chiffre pile en tête, mais le plus haut, l'Everest, c'est vers les 8800.
Oui, c'est 8000 et quelques, ouais, plus de 8000. Donc on est encore loin du compte, entre 1500, c'est de la broutille, ça les fait rigoler les gens de l'Himalaya.
Un petit thé, les gars.
C'est ça, ouais. Mais d'ailleurs, 3500 mètres, on va dire, ça commence à faire pour un être humain comme moi qui est né au niveau de la mer. Hein. On va dire qu'à partir de 2000, ça commence à être un peu intéressant pour l'organisme. Okay. Donc 3500 mètres, c'était pour moi assez rude. J'avais jamais été en haute montagne. Hein. Je suis une fille de la ville. Tout ce qui est plus normal. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué au niveau santé de survivre à l'Himalaya parce qu'il n'y avait pas trop d'oxygène. Mon corps trouvait qu'il n'y avait pas trop d'oxygène. Donc mon cœur a pompé des globules rouges pendant tout le temps. J'étais là, je me demandais combien de temps on peut rester en tachycardie en fait.
Et ça s'est amélioré
ça s'est amélioré au bout d'une dizaine de jours, on va dire.
Ouais, quand même.
Ouais, généralement, on dit que les 2-3 premiers jours, il ne faut pas trop bouger. Si on a le mal des montagnes, donc rester globalement allongé, boire du thé, par exemple, ici au beurre. Du coup, vraiment, c'est tout juste si on ne l'a pas mis en perfusion. En tout cas, ressenti, je l'avais en perfusion. Et puis, je ne me déplaçais pas trop, mais c'est vrai que dès qu'il fallait marcher, on va dire un peu plus que normalement, c'était direct l'essoufflement quand on est allé dans les monastères avec les enfants qui vivaient avec moi dans la famille. Oh là, ça courait comme des cabris devant. Moi, j'avais l'impression d'avoir 70, 80, 90 ans. Plus on avançait, je n'en pouvais plus. J'avais les jambes qui tremblaient. Je me disais, ah, attends, mais Marie-Aude, mais t'es danseuse, t'as une petite condition physique normalement à la base. Et juste de monter quelques marches, je ne parle même pas, c'est pas le Machu Picchu, hein, monter quelques marches pour accéder au monastère, c'était. Je faisais des pauses toutes les 3-4 marches, je disais attendez, j'en veux plus.
Alors, monastère, la religion là-bas, est-ce que c'est une religion d'ailleurs le bouddhisme?
C'est une religion. Il y a plusieurs sortes de bouddhisme. Nous, on parle toujours du bouddhisme, et on mélange un petit peu tout, mais en fait, il y a des bouddhismes. Il y a plusieurs courants dans le bouddhisme, c'est comme dans le christianisme ou dans l'islam, il y a des courants aussi avec des pensées différentes, des clergés différents. Donc, ce qui est pratiqué au Ladakh, c'est ce qu'on appelle le bouddhisme tibétain. Donc, c'est une forme spécifique de bouddhisme. C'est très différent, par exemple, bouddhisme qui est pratiqué en Thaïlande ou qui peut être pratiqué en Chine ou ailleurs.
D'accord. Sa particularité peut-être rapidement
En fait, particularité, je ne suis pas complètement spécialiste du bouddhisme, hein, j'ai peur de dire des bêtises, mais globalement, en fait, il y a à côté du Bouddha, qui reste évidemment la divinité centrale, il y a aussi plusieurs petites divinités. On voit que c'est une religion qui, comme toutes les religions évidemment, a su s'adapter aussi à des croyances locales et les intégrer dans ses rituels ou dans sa pensée d'une manière générale.
Très bien. Et du coup, vous allez un peu fêter en quelque sorte le Nouvel An chinois.
Oui, alors le Nouvel An
chinois.
Oh là là, ça y est, l'incident diplomatique. Ça y est, c'est parti.
Et du coup, j'ai pas relevé le mot, mais c'était
Losar.
Losar.
Oui, Losar, c'est le Nouvel An du bouddhisme tibétain, justement. Mais en fait, c'est un Nouvel An lunaire, mais vous savez que quand le Nouvel An lunaire, ça tombe pas toujours au même moment tous les ans, hein, on le sait par le Nouvel An chinois. Mais tout le monde ne calculant pas la Lune exactement pareil, il arrive très souvent que le Nouvel An lunaire chinois ne tombe pas en même temps que le Nouvel An lunaire bouddhiste, qui est différent. Là, il y a quasiment, un mois d'intervalle, parce que le Nouvel An chinois a commencé de mémoire... Je crois le 25 ou 26 janvier, durer 2 semaines. Et puis là, on est 25 février et c'est reparti pour un nouvel an. Là, c'était le nouvel an chez les peuples de l'Himalaya et en Mongolie aussi. Voilà, ils ont fêté leur nouvel an il y a quelques jours.
Donc là, c'est vraiment une grosse fête.
C'est une fête familiale. C'est comme Noël chez nous. Donc tout s'arrête. Tout reste en suspens pendant les 2 jours. En Chine, c'est 2 semaines. 2 semaines où tout est à l'arrêt complet, on va dire. Et c'est une veillée et une journée en Mongolie et pour Losar, généralement. Donc là, on va dans la famille, on ferme la maison, on va voir les papis, les mamies. On cuisine, on mange beaucoup. Et en fait, il faut savoir que le Nouvel An lunaire, que ce soit pour les Chinois ou que ce soit dans les autres pays, en fait, c'est la fête du printemps pour les gens. C'est-à-dire qu'à partir de cette date-là, on peut considérer que l'hiver, globalement, est fini. Enfin, le plus dur est passé, on va dire. Donc, c'est une raison de se réjouir.
Oui, complètement.
Surtout quand l'hiver, c'est moins 50. Hein, c'est pas des hivers. Ah ouais. C'était pas des hivers comme à Tours. Hein. Donc, quand le gros de l'hiver est passé et que donc, le nouvel an intervient, on sait que voilà, maintenant, on va vers le mieux.
D'accord. Peut-être question un peu bête, mais pourquoi est-ce que, du coup, ils vivent aussi haut? Est-ce que.
Pourquoi les hommes se sont positionnés ici ou là?
S'il fait très froid, ou est-ce qu'ils pourraient...
Le problème de descendre, c'est qu'il faut reprendre ça à la base. Il y avait des gens qui étaient là-haut pour des raisons XY qu'on ignore certainement. Mais s'ils redescendent, il y a d'autres gens. Et les autres gens, ils ne veulent pas qu'on habite chez eux. Ils veulent que chacun reste chez soi et que les cochons soient bien gardés.
Attends, mais donc, ce n'est pas un truc de...
Non, je pense. Pourquoi ils ont atterri là? Pourquoi ils sont installés là? Probablement, leurs ancêtres ont dû y trouver... Il y a plein de bonnes raisons d'habiter en hauteur. Personne ne vient vous ennuyer, déjà. Voilà, alors c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse, mais vous êtes protégé des guerres, ça peut être aussi un endroit stratégique, hein, quand vous êtes sur des cols, vous contrôlez un versant l'autre.
Complètement.
Voilà, il y a plein de raisons qu'on peut imaginer pour lesquelles il est intéressant de vivre en hauteur. Et d'ailleurs, quand on regarde les peuples qui vivent dans les hauteurs, que ce soit les Géorgiens, dont on parlait tout à l'heure, dans le Caucase ou les Basques, c'est généralement des gens qui arrivent à garder des particularités culturelles, parce que personne ne vient les embêter là où ils sont. Et que, comme ils connaissent le terrain, quand on vient les embêter, c'est eux qui ont l'avantage. Donc voilà, certainement plein d'avantages à ça.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur leur façon de vivre en quelque sorte durant l'année?
J'ai un grand souvenir d'humilité de la part, des Ladakhi. Une humilité conditionnée d'une part par leurs croyances religieuses, le bouddhisme invitant extrêmement à l'humilité, mais je pense aussi conditionnée par les conditions dans lesquelles ils vivent. Je veux dire, vivre dans la haute montagne, c'est pas comme vivre dans la plaine où on peut dévier une rivière, se contrôler un peu. Voilà, quand on vit dans des conditions aussi hostiles que celle-ci, il n'est pas du tout question de faire plier la nature à son propre désir, en tout cas très 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 peu. Hein. Et ça fait des peuples qui disent qui sont plus résilients, plus résignés, mais plus humbles face à des pouvoirs naturels, surnaturels si on veut, qui les dépassent. En tout cas, la nature les dépasse et donc ils sont plus humbles, plus résignés, plus résilients que d'autres peuples qui, eux, ont travaillé toute leur civilisation, tout leur développement à contraindre la nature. Et ça aussi, c'est beau d'avoir construit des aqueducs, etc. Enfin, c'est pas, l'un n'est pas supérieur à l'autre. C'est juste qu'on part pas avec le même jeu de cartes à la base. Et avec, du coup, avec ce jeu de cartes, on peut pas avoir les mêmes ambitions. Ça conditionne beaucoup de choses. Donc voilà, un souvenir vraiment très, très, très doux des peuples de l'Himalaya. Des gens, je les revois dans ma tête, extrêmement souriants, humbles, chaleureux. Bien à l'opposé de la nature tout autour au final. L'exact, l'exact opposé, mais justement, ils sont la partie rassurante de l'Himalaya, les gens.
Oh, très bien dit. pour finir, en quelque sorte, j'avais une question un peu plus personnelle, enfin intéressée, concernant l'alpinisme, en quelque sorte.
Oui.
Je suis désolé, mais ça m'intéresse
d'accord,
vraiment.
Bienvenue, Alexandre.
Mais est-ce que vous savez, mais est-ce que vous savez quand est-ce que qu'a démarré un petit peu l'ascension des sommets ou...
Alors là. Je pense qu'à partir du 19e siècle, les gens ont dû commencer peut-être à essayer de gravir l'Everest, etc. Peut-être, je ne sais pas à partir de quand. Ce que je peux dire, c'est que pour les fans de trek, ceux qui sont fans de trek en montagne, le Ladakh, c'est une destination intéressante parce qu'elle est très peu touristique. Donc, ça évitera de se cogner dans tous ceux qui vont au Népal pour faire des treks. Après... comme c'est peu touristique, c'est aussi un petit peu plus rude. Hein. C'est pas des sentiers balisés, comme on peut en trouver dans d'autres régions de l'Himalaya. Donc il faut aimer des endroits un peu plus naturels. La plupart des touristes qui vont au Ladakh, ils vont en été. C'est-à-dire en juillet, août, septembre, on va dire, c'est les trois mois où il neige pas, les trois mois où il fait un peu moins froid. Donc là, bah, y a des gens qui sont guides et qui peuvent vous emmener faire des treks. Après, je pense qu'on peut aussi trouver, si on est vraiment fan d'alpinisme avec des piolets, des cordes, il doit aussi y avoir des endroits où on peut le faire. Mais il y a beaucoup de peuples nomades qui vivent encore dans l'Himalaya, au Ladakh, donc qui sont certainement de très bons guides, il y a de très bons poneys, de très bons yaks aussi qui peuvent emmener. J'avais fait un mini trek quand j'y étais. Bon, moi, c'était en hiver. Alors, ça s'appelait un baby trek, donc c'était censé être le trek le plus facile. Sauf que c'est le trek le plus facile en été, mais en hiver, c'était totalement autre chose. Mais c'est un excellent souvenir d'avoir marché comme ça dans la neige avec le guide que j'avais. Enfin, c'était un ami de la famille avec qui je vivais. Il s'appelait Norbu. Et bah, comme c'était l'hiver, il n'avait rien à faire. Il a vu que... Bah oui, personne ne venait. D'ailleurs, tout le monde me disait, pourquoi tu viens pas en août comme les autres? J'étais en février. et donc, il m'avait emmené faire ce baby trek qui avait été hyper... hyper compliqué, mais du coup, si vraiment il y a des gens qui veulent découvrir le côté un peu sauvage de l'Himalaya, bah, je peux recommander d'aller rencontrer le Ladakh et les Ladakhis.
Merci Mario. J'aurais aimé qu'on rappelle un petit peu, si jamais des danseurs ont envie de faire partie de votre association, comment est-ce
qu'on peut... Ils sont les
bienvenus. Bien sûr.
On a une page Facebook, Aux Quatre Vents. Alors, je précise que c'est vent, hein, comme le vent qui souffle, parce qu'ici, en Pays de Loire, toujours 80. Mais non, ça n'a rien à voir. Aux Quatre Vents. Et on a un site internet du même nom, www.aux4vents.org. Il faut écrire le 4 en chiffres, A-U-X, 4, V-E-N-T-S. N'oubliez pas le S, il y a toujours des gens qui m'écrivent, on n'a pas trouvé, parce qu'ils ne savent pas accorder au pluriel.
Le retour
voilà,
à l'école.
Ben allez, c'est reparti.
Et donc, on rappelle du coup, dimanche 8 mars,
à midi, il reste quelques places, donc dépêchez-vous si vous êtes intéressé. Il reste quelques places, c'est à partir de midi, dans le local de Tour à Table, qui est un local pour les cours de cuisine, l'événementiel autour de la cuisine, c'est pas un restaurant en soi. Hein.
Ah, on aurait pu en parler un petit peu du coup de ça, les...
On en parle rapidement. Donc, Tour à Table, c'est une entreprise d'événementiel autour de la cuisine. Ils organisent beaucoup de dégustations, mais aussi ils font des choses pour les entreprises. Je pense que la directrice en parlerait mieux que moi. Mais en tout cas, on a le plaisir d'être accueillis par eux dans leurs locaux au 45 rue Bernard Palissy, donc en plein centre-ville, bien desservis par les bus. Et donc, ce sera le 8 mars pour la journée de la femme. Emmenez votre amoureuse, franchement, venir voir et déguster des choses de l'Himalaya.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mario.
Merci pour votre invitation.
Et puis, on va avoir tout juste le temps de faire les rappels de fin d'émission. Tu vois, tu es très doué.
Oui, puis musique.
Exactement. Tu vois, je remplace Julien, je te fais des petits compliments parce que je sais qu'il te manque.
Bah, on est mercredi en plus, petite
pour ça. C'est pour ça, voilà. Mais surtout, rappelez que cette émission sera en rediffusion demain matin de 6h à 7h, que le podcast sera disponible ce soir sur toutes les plateformes de la radio, donc le Facebook de la radio Radio Campus Tours, le site web www.radiocampustours.com, que dans quelques minutes, on va se retrouver avec le RFI, donc votre flash info à 18h, 18h15, le Ghetto Blaster avec Mathilde qui ce soir réserve un truc bien sympa. Nous, on se fait teaser à la radio, donc moi, je sais que c'est bien sympa. Donc, écoutez Mathilde tout à l'heure, 18h15, Ghetto Blaster. Et puis nous, on va se laisser... On se dit à demain, déjà.
À demain.
C'est bien, à demain.
Au 80.
Au 80, en Touraine. À l'alcool. Bref, pardon. Et on va se laisser avec Tame Impala et Past Life. Et puis, bonne soirée, puis à demain.
Au
bonne
revoir.
Soirée.
I was picking up a suit from the dry cleaners, which is standard for me, Thursday, 12:30. I've got a pretty solid routine these days. I don't know, it just works for me. Anyway, I was leaving. I was getting in my car, and I went to adjust the rearview mirror. But in its reflection, just for a second, I saw a figure. Started to trigger, memories flooded back, stopped me in my track. Who was that? It was my lover. A lover from a past life.
From a past life.
Somewhere between a lover and a friend. It was different back then. Surreal. Poetic when uncertain. Like a bizarre chick flick with a confusing end. But I shut it down, closed it off. The sounds and smells I made myself forget. A cheap solution to blackout regret. But it was real. It just feels like a past life.
Campus Tours 99.5
et sur internet radiocampustours.com.